Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, au micro et à la technique Adeline Wickmans. Aujourd'hui, nous recevons dans le studio Eric Vanesch, professeur à l'ULB et également à l'École supérieure des arts de la Cambre. Eric Vanesch est spécialisé en tout ce qui touche à l'art public. Et c'est là-dessus que porte ses recherches. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on le rencontre? Eh bien parce que mercredi 25 et jeudi 26 mars, donc mercredi et jeudi prochain, un colloque va être consacré au street art. C'est le troisième colloque organisé au sein de l'ULB à ce sujet, le street art. Et bien, je vais laisser tout de suite la parole à Eric Vanesch, qui nous en dit un peu plus sur ce colloque consacré au street art.
Moi, je suis intéressé à l'art public depuis très longtemps et je trouvais ça intéressant d'étudier la question du street art, qui est finalement un phénomène qui dure depuis maintenant un demi-siècle et qui fait partie, je pense, du corpus de l'art urbain. Et donc, on a commencé il y a quelques années avec un premier colloque qui s'intéressait finalement à la reconnaissance des artistes urbains comme étant justement des créateurs à part entière et tout ce que ça pouvait entraîner comme légitimation d'une pratique au départ illégale et éventuellement de sa domestication par les autorités en place. Donc, entre ces deux attitudes de vandale ou de vendu, on a voulu faire un premier colloque qui rassemblait en fait les acteurs qui jouent le rôle d'intermédiaire désormais entre l'artiste et son public. Alors qu'au départ, un graffiti, c'est posé rapidement par quelqu'un qui disparaît et puis n'importe qui le lendemain matin le découvre devant chez lui. Donc, le circuit était très court entre le producteur et le consommateur. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'évidemment, avec la reconnaissance du genre, il y avait un tas d'acteurs et d'intermédiaires supplémentaires qui apparaissait dans l'écosystème et on a voulu le décrire en donnant la parole en fait à des artistes, des gens responsables de la gestion de l'espace public, des universitaires, des historiens de l'art, etc., etc. Ça c'était le premier colloque et ça a donné lieu à une publication aux éditions CFC ici à Bruxelles qui s'appelait Révolution du street art, justement sur les nouveaux acteurs du street art. Alors en terminant ce livre, la plupart des questions qu'on nous posait liées à l'étude qu'on avait menée, c'est dans le fond, s'il y a reconnaissance du genre dans la rue, à quand une entrée au musée? Alors ça nous a inspiré un deuxième colloque. Donc on a monté cela et donc là on a invité des collectionneurs, des galéristes, des gens responsables de musées, des gens qui accueillaient du street art dans des espaces fermés et non plus simplement des pièces posées dans la rue. Ce qui pose plein de questions extrêmement intéressantes parce que quand on travaille dans la rue, en général l'œuvre est in situ, elle est pensée pour un espace et elle n'est pas, conceptuellement mobile ni matériellement. Si elle est peinte sur un mur, comment faire? Et en réalité, on a découvert qu'il y avait un tas de déclinaisons possibles du genre, dans l'esprit éventuellement même du street art, mais qui pouvaient s'incarner dans des peintures, des objets, des sculptures, que sais-je, et qui finissait en étant décliné sous une forme exposable par entrer effectivement dans des collections de musées, de centres d'art, etc. Ça, c'était le thème du deuxième colloque. Et on en sort un livre à ce sujet d'ici la fin du printemps, je pense, qui s'appelle « Exposer le street art, l'art urbain au défi de l'institution muséale ». Et puis, finalement, en terminant ce livre-là, les questions qui nous venaient, c'était des questions en rapport avec le droit et le marché. Et dès le moment où il y a des objets, dans le fond, est-ce que ces objets, au lieu d'aller simplement au musée, ne peuvent-ils pas transiter par le marché de l'art, le marché du street art? Et dans le fond, si on organise des ventes, il faudrait quand même savoir qui est le propriétaire de l'objet. Or, dans le street art, il y a beaucoup de gens qui travaillent sous pseudonyme et qu'on ne connaît pas forcément, même les plus masqués finissent par être démasqués, comme tout récemment l'affaire Banksy nous l'a montré. Mais ça pose donc des questions finalement de droit et d'économie. Et donc voilà, on organise un troisième colloque qui s'ouvre la semaine prochaine à Bruxelles et qui traitera de ces questions. Donc le street art entre le droit et le marché, et on l'a sous-titré « Quand les graffeurs rencontrent les collectionneurs
». C'est vraiment intéressant de vous entendre faire cette chronologie, vos trois colloques, mais ça suit en fait L'arrivée peut-être à maturité de ce street art, vous disiez, c'est une forme d'art qui a maintenant quasi 50 ans. C'est un art qui s'est avec les années vraiment imposé comme une forme d'art à part entière.
Oui, c'est imposé. Ça sous-entendrait qu'il y a une volonté, une stratégie derrière. Je crois que, moi, je dirais plutôt a été reconnu. Parce que cet art, bon, il est présent, simplement, il était invisibilisé, ou plus exactement, il était versé à la catégorie des faits divers, couverts par les médias, ou des tribunaux, parce qu'il y avait des questions de plaintes et des procès, des jugements qui étaient émis à l'encontre de gens qui étaient catalogués vandales, c'est-à-dire, dégradant, on va dire, l'espace commun et méritant, à ce titre, une amende. De voir une peine de prison ou des heures de travail d'intérêt collectif, ce qui est arrivé et qui arrive encore. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu un retournement du stigmate, comme on dit à l'université, qui fait que, sans qu'il y ait vraiment un bouleversement des pratiques, il y ait un œil différent porté sur ces pratiques. Alors après, bien entendu, sur les 50 années, il y a une évolution qui va du tag au graffiti jusqu'au street art. On peut en dire quelques mots dans un instant, qui fait que, à un moment donné, il y a sûrement des créateurs qui ont eu des stratégies de visibilité et d'inscription dans une filiation de muralisme, c'est-à-dire une tradition qui remonte à l'Antiquité, de réaliser des peintures murales dans l'espace public. Donc il y a sûrement des trajectoires personnelles, mais ce n'est pas un effet cohérent, massif, je dirais, pour s'imposer. Ce sont des trajectoires souvent plus personnelles. Par contre, de fait, aujourd'hui, et notre colloque en est la preuve, jusqu'aux institutions scientifiques, il y a de l'intérêt pour cette forme d'expression. Et avant nous, il y a les musées qui se sont intéressés à cela, une autre forme d'institution scientifique, mais aussi les galeries, et d'ailleurs avant les institutions publiques, ce sont d'abord effectivement les partenaires privés qui ont eu l'œil attiré par ce marché potentiel, mais en même temps, on en reparlera peut-être un peu plus tard, qui ont été d'une certaine façon acteurs de cette reconnaissance. Et donc, on fait œuvre de diffusion et de légitimation par rapport à ces pratiques qui étaient jusque-là versées, je le disais, au rang des incivilités. Donc, c'est vraiment une évolution extrêmement intéressante. Alors, pour résumer assez vite, pour des auditeurs qui n'auraient pas beaucoup de connaissances dans ce domaine, donc ça apparaît dans les années 70 aux États-Unis, côte est, côte ouest. C'est d'abord l'usage d'une jeunesse qui se sent invisibilisée et qui donc marque sa présence en signant d'une certaine façon les murs, en signant la ville, en manifestant sa présence avec un tag qui est une signature rapide ou un graffiti qui est une signature plus développée. Et puis petit à petit, en fait, ça traverse l'Atlantique, ça arrive en Europe. Mais en Europe, c'est pas tout à fait la même génération ou en tout cas la même catégorie de la jeunesse qui s'intéresse à ça. Ce sont des gens instruits, hein, souvent, qui ont connaissance des pratiques qui ont lieu outre-Atlantique, qui se documentent ou qui ont fait un voyage là-bas et qui, eux, s'inscrivent dans une tradition d'art urbain européenne où il y a quelques grandes figures qui sont des artistes qu'on appelle aujourd'hui contemporains, qui interviennent déjà dans l'espace public, qui, en début de carrière, peuvent faire des interventions dites illégales, du moins spontanées, inattendues, sans invitation ou commande publique. Et donc, en fait, c'est cette double filiation qui se met en place en Europe, venant des États-Unis, et puis cet héritage, on va dire, des artistes urbains contemporains qui préexistaient dans l'espace européen. Et là se développe un art plus construit, certainement plus pensé, pas forcément uniquement empreint de revendications sociales, mais avec une réflexion sur comment on inscrit un motif dans un contexte urbain, avec une vraie réflexion plastique, esthétique, on pourrait dire, et avec des gens qui peu à peu vont finalement assumer le statut de créateur et finalement revendiquer une reconnaissance en tant qu'artiste. Alors reconnaissance en tant qu'artiste, ça veut dire plusieurs choses, hein. Ici on est très incomplet, ça veut dire d'abord une légitimité, je suis pas un voyou, je suis quelqu'un qui a un tempérament créatif et qui s'exprime librement dans la rue. Ça peut être également une reconnaissance en tant que citoyen qui pose la question de comment est-ce qu'on peut s'exprimer en démocratie dans l'espace urbain, jusqu'où va la liberté d'expression. Et puis, ça peut être aussi, est-ce que je peux gagner de l'argent en faisant ce qui est ma passion et qui voudrait devenir mon métier, et donc apparaît un marché. Alors ça peut être un marché privé ou un marché public. Le marché public, c'est je reçois finalement une commande publique. Donc précédemment, je travaillais la nuit anonymement dans l'illégalité avec le risque de devoir dépenser de l'argent pour payer une amende. Et puis finalement, j'ai une reconnaissance, donc je tombe le masque, je suis accueilli 2 jours avec tout le confort nécessaire pour faire un mur, une nacelle, du temps pour travailler, de bons outils, et éventuellement un cachet. Et donc j'ai une commande publique à laquelle je réponds. Et certains font les deux d'ailleurs, hein, la nuit et le jour, de façon un peu schizophrène, continuent une pratique inattendue et spontanée, et d'autre part répondent à des commandes publiques et des subventions. Mais d'autre part, il y a des rémunérations privées, à savoir, il y a un marché, des amateurs, des gens qui ont envie d'acheter un objet qui renvoie au street art, qui est réalisé par un street artiste. Évidemment, acheter un mur, c'est plus difficile. Et donc, petit à petit, des galeries apparaissent. Alors, on est déjà dans les années 80, hein, assez vite, en France, des galeries pionnières sont apparues. Et puis, finalement, au début des années 2000, ça commence à être un vrai phénomène. Il y a un vrai marché de l'art qui s'installe. Puis, il est suivi par également des salles de vente qui vont proposer des œuvres d'art à la vente. Pas seulement en galerie, c'est ce qu'on appelle le second marché. Et puis, il y a aussi des foires de street art qui vont se mettre en place. Et aujourd'hui, il y a vraiment un engouement, une mode pour ce marché, qui évidemment conduit à des excès. Il y a des galeries opportunistes qui présentent un art facile, un peu pop, on dirait aujourd'hui, de gens qui ne font que répéter, reprendre, voire caricaturer des pratiques authentiques qui, elles, existent, on le disait tout à l'heure, depuis une cinquantaine d'années. Donc aujourd'hui, on a fait un peu la part des choses sur le marché entre les vrais défricheurs qui ont pris des risques, qui ont poussé des artistes contre vents et marées et contre la loi parfois pour obtenir leur reconnaissance en tant qu'artiste et puis en tant que mouvement d'art urbain, et puis d'autre part des galeries qui veulent faire du commerce. Donc finalement, quand on a un peu d'expérience, on parvient à se débrouiller dans ce terrain, mais le terrain a effectivement énormément changé.
Mais donc, si j'ai bien suivi, à l'origine, le street art américain et le street art européen sont différents. Enfin, ce qui sous-tend le mouvement, en tout cas, est tout à fait différent, avec peut-être en Europe un côté plus réflexion, mais qui n'est quand même jamais très éloigné d'une dimension de revendication sociale, même si la revendication n'est peut-être pas pour soi-même.
Oui, vous avez raison, tout ça doit être nuancé. Aujourd'hui, on dit street art, on dit même graffiti, tout ça c'est un grand sac dans lequel on met beaucoup de choses en vrac, hein. Donc on pourrait évidemment nuancer énormément ce que je dis, j'essaie d'un peu synthétiser les choses parce que ça nous emporterait assez loin d'entrer dans tous les détails. Mais vous avez absolument raison, la dimension de revendication sociale, elle est là, elle reste là, et ça elle est héritée effectivement des États-Unis. Cela dit, même en Europe, il y a une tradition du graffiti au sens plus politique du terme, hein. Regardez en mai 60, on écrivait des slogans sur les murs. Donc il y a aussi cet héritage-là qui vient avec. Donc forcément, on est à la croisée de plusieurs choses. Il y a des gens qui ont un besoin d'expression, qui ont des revendications. Mais vous savez, quand les artistes contemporains qui ne sont pas associés au street art s'expriment dans l'espace public, très souvent, ils mobilisent l'attention sur des questions qui sont parfois compliquées dans notre société. Et il y a un art de revendication aussi dans l'art contemporain. Il y a des artistes engagés. Il ne faut pas seulement être street artiste pour avoir des revendications. Donc, bien entendu, dans le street art, il y a aussi une dimension de revendication. Alors, c'est une histoire un peu intéressante, hein, si on reste un instant là-dessus, c'est que le tag et le graffiti dont je parlais, c'est finalement en cercle fermé, c'est-à-dire ça s'adresse à sa propre communauté, parce que nous, en tant que profanes, de l'extérieur, on ne comprend pas le tag, on n'arrive pas à lire, de la même façon qu'on n'arrive pas à lire une signature. C'est comme ça, l'auteur, lui, il comprend, mais nous, on ne comprend pas la signature qui nous est mise sous le nez, on ne la déchiffre pas, je vais dire. Et par contre, la communauté de graffeurs ou de taggeurs, elle comprend ça. C'est donc un jeu entre soi, d'une certaine façon. Et ce qui est assez comique, c'est qu'on le rend malgré tout visible aux yeux de tous. Mais la plupart des gens sont d'une certaine façon illettrés pour accéder à cet art. C'est d'ailleurs une des causes de son rejet, hein, parce que le tag, le graffiti reste encore suspect. Et quand on passe au street art, c'est-à-dire qu'on glisse vers quelque chose de plus figuratif, donc l'ambition est la même, on intervient de façon spontanée, illégale, voire anonyme dans l'espace public, mais on ne fait pas que signer le mur, on produit une image. Et parfois on mêle les lettres et les images, tout ça a besoin d'être nuancé, bien sûr. Mais dès le moment où on produit des images, tout d'un coup, ça devient accessible au public. Et donc, vous ne parlez plus seulement à votre communauté, je dirais, mais vous parlez à tout le monde. À ce moment-là, quand vous avez une revendication, vous pouvez la formuler clairement, soit avec, comme en publicité, hein, un bon slogan, avec une bonne illustration, soit une image qui parle d'elle-même, etc. Ceci étant, Quand on écrit sur le mur même un tag et une signature graffiti indéchiffrable, on pose un geste revendicatif quand même. On dit j'existe d'abord et on dit jusqu'où on peut aller en termes d'expression dans nos démocraties. Il y a un message derrière de toute façon. Hein. Mais bon, quand on fait des images, on peut être plus précis, je dirais, dans sa revendication. Et de fait, beaucoup de street artistes le font. Jusqu'à Banksy, dont on parle beaucoup, disais-je, en ce moment, qui, le plus souvent dans ses interventions, il y a un discours politique sous-jacent qui est une position de contestation, de critique d'une situation qu'il juge intolérable. Et dans le meilleur des mondes, on pourrait se dire, c'est un citoyen et pas seulement un artiste, et donc il décide d'utiliser son registre d'expression en tant qu'artiste pour revendiquer des positions citoyennes. Bon, d'un autre côté, si on est plus cynique, on peut y voir aussi une entreprise commerciale, parce qu'au bout du compte, il y a quand même des rentrées, d'une manière ou d'une autre, qui se font, ne fût-ce qu'en termes réputationnels. Hein. Il y a un gain symbolique d'existence et de visibilité, et puis il y a en fait des gains économiques qui sont évidemment possibles aussi dès le moment où on a cette réputation.
L'asphalte est tendu, serré à bloc, ils ont formé le gang shop. Sur le front, on mouvement, tout le contre les casques, on joue des coudes. Digital génération, marché par la répression, monte le son, l'insurrection, chaque pas, chaque son est un nouveau bastion. C'est un, la cour dans OBS, la France d'en bas en laisse. Charlie pour les scandales, PS, les pour les draps. Des cibles et malentendus, quand on ferme sa gueule à la rue. Quand rap par en du foule, le peuple se serre les couilles. 8.0 S, demande d'asile, blesse. Culture et l'exception, maté par CDR Ancon. Un instant culture de masse.
Choc phénoménal, on nique le métal, on pollue la bande sonore jusqu'à prendre du bon placé.
Sylvanèche, vous avez bien fait la différence, effectivement, entre des représentations graphiques, images, qui peuvent être comprises et peut-être plus appréciées par le grand public. Mais donc, quand on parle de street art, c'est pas pour autant que tout ce qui touchait au graphe est éliminé. C'est juste que la famille s'est agrandie.
Alors, oui, en prenant le mot famille au sens très grand, parce que sans doute des taggeurs et des graffeurs ne souhaiteraient pas être mélangés et labellisés street art, mais vous avez raison, c'est une grande famille qu'on pourrait dire d'art urbain, voilà, d'intervention spontanée dans l'espace urbain. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un volet même pour le graffiti qui devient officiel, hein, attention. Mais au départ, normalement, l'authenticité de cette pratique, c'est quand même le fait d'être spontané et d'apparaître en toute liberté dans l'espace, avec surprise, on va dire, pour les usagers de cet espace public, et la commande publique est une certaine branche, on va dire, de ce mouvement, mais ne devrait pas être la règle. Hein. Il reste encore, bien entendu, un très grand nombre de pratiques d'intervention qui sont inattendues dans l'espace urbain. Donc, leur point commun, c'est ça. C'est cette invitation non reçue et pourtant une présence assumée visuellement dans l'espace des citoyens que nous sommes. Voilà. Donc, oui, c'est une grande famille d'art urbain, puisque le plus souvent c'est en ville. Et dans les histoires du tag, du graffiti et du street art, on mêle tout cela, on le met en perspective chronologique comme je l'ai fait. Mais là où vous avez raison, c'est que ce sont pas des mouvements, comment dire, des évolutions qui effacent la précédente, ce sont plutôt des accumulations. Donc aujourd'hui, si vous vous promenez dans une ville qui est touchée par ce phénomène, et en fait, c'est un phénomène qui est devenu mondial. C'est une autre caractéristique de ce phénomène, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il est mondialisé, globalisé. Vous en avez partout. Absolument partout. Et ça, c'est assez unique, je pense, dans l'histoire de l'art. Bref, je ferme ma parenthèse. Donc, vous vous promenez dans n'importe quelle ville, touchée par le phénomène, vous allez voir des tags, des graffitis, du street art. Vous allez voir les deux. Et si vous, les trois. Et si vous regardez de plus près, vous allez voir énormément de techniques. Normalement, la première technique du tag, c'est le marqueur. La technique du graffiti, c'est la bombe à aérosol. Mais en réalité, il y a de plus en plus de déclinaisons. Et alors, le street art, lui, il a ouvert, c'est une de ses caractéristiques, la porte à toutes les techniques. Donc, la seule limite, c'est l'imagination du créateur. Vous avez du street art qui est effectivement peint à la bombe, mais d'autres est peint d'autres manières. Il y a du pochoir, il y a même de la sculpture, il y a du travail textile, il y a de l'affiche, il y a des autocollants, etc., etc. C'est extrêmement varié. Donc, non seulement vous allez voir les trois registres, qui, pour certains d'ailleurs, sont poreux les uns par rapport aux autres, et aussi, vous allez voir, une multitude de pratiques et de techniques. C'est donc, finalement, pour l'œil, assez intéressant, si on prend la peine de s'attarder et de regarder ça autrement, comme finalement, une dégradation. Voilà. C'est aussi une proposition plastique. Il y a une vraie recherche formelle là-derrière, très clairement. Outre cette capacité à occuper un espace et de tenir compte du cadre, du déjà-là dans lequel l'œuvre va s'intégrer, et ce sont des artistes qui sont très fins sur ce terrain-là, qui arrivent à contextualiser dans l'espace, spatialement, leur intervention. Et puis, d'autre part, en termes de technique et de capacité à produire un motif avec tel ou tel matériau, il y a beaucoup d'imagination et beaucoup de talent, en réalité.
Mais donc, ça veut dire que l'image que le grand public peut avoir du street art ou de l'artiste de street art, effectivement, la première chose à laquelle on pense, c'est la bombe, c'est le fait de devoir travailler dans l'urgence. Mais donc, il y a une recherche, pas de la part de tous les artistes, mais de certains d'entre eux, il y a une recherche qui va beaucoup plus loin en termes de possibilités aussi.
Le terrain de jeu, c'est la ville, quoi. Donc, un street artiste qui se respecte, quand il se promène en ville, il a constamment le regard attiré de ce qu'on appelle, à la recherche de ce qu'on appelle des spots, des endroits où il pourrait être bien vu et à la fois réagir à une situation. Donc, il y a une infinie possibilité à la fois d'implantation, et à la fois de technique, effectivement, et de registre d'expression. Après, quand c'est une commande publique, évidemment, cette part de liberté va diminuer, puisqu'on va vous attribuer un mur, et puis il y aura éventuellement dans le cahier des charges une limite en termes de sujet, et parfois ça devient presque grotesque, hein, on demande de faire la promotion de ci ou de ça, et on devient des illustrateurs, d'une certaine façon, d'une vision politique, et donc c'est pas tout à fait, à mon avis, ce que les artistes au départ pensaient, mais parfois on accepte, pour des raisons pragmatiques, ce type de contrat, tout en les regardant un petit peu avec condescendance, je dirais. Donc voilà, il y a énormément de choses, et dès le moment où on rentre dans la sphère officielle, bah, disons, on est un peu limité, à la fois dans sa pratique et dans son contenu, ça c'est clair.
Mais peu importe l'option, ça reste un art qui est lié à l'urgence. Autant, à part effectivement pour les contrats publics, mais autant dans la manière dont il doit être fait. Si on est dans l'illégalité, il faut agir vite. Et puis, du fait que c'est en espace urbain et donc en espace accessible à tous, c'est un art qui peut aussi disparaître.
Oui, alors la question de l'éphémérité est également un point très important. Donc on dit que voilà, l'authenticité de ce type d'expression urbaine, c'est l'illégalité d'une part, et d'autre part également l'éphémérité. C'est un art qui est fait pour être digéré par la ville, comme je dis toujours, donc il est voué à disparaître. Ça, c'est normalement la base. Ceci étant, avec l'évolution dont nous avons déjà parlé, eh bien, la question de sa patrimonialisation se pose. À la fois dans les communautés, parce qu'il y a des pièces qui finissent par hasard ou parce que voilà les circonstances ont été réunies pour cela, il y a des pièces qui finissent par durer tout de même et qui prennent parfois de l'âge. À ce moment-là, au sein de la communauté, ces pièces deviennent des références parce que leur auteur, entre-temps, est devenu quelqu'un d'important dans le mouvement et quelqu'un de reconnu, etc. Donc cette pièce-là, même aux yeux des street artistes, devient une pièce qui ne devrait plus disparaître. Et dès le moment où, par des circonstances X ou Y, il est question de l'effacer ou de la remplacer, il peut y avoir des réactions très vives pour la protéger au sein du milieu lui-même, alors qu'au départ, l'éphémérité est revendiquée. Et puis ça va plus loin quand l'institution, même muséale, s'intéresse à cela en se disant « mais qu'est-ce qu'on fait avec cette trace d'un moment de l'histoire de l'art urbain que l'on doit conserver pour les générations futures ?» C'est la mission du musée, entre autres. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on arrive à protéger in situ ? Et alors on a des solutions parfois un peu étranges où on met un plexi devant une œuvre, ce qui est une manière de l'enfermer. D'une certaine façon, mais au moins on la protège. Ou alors on essaye de la délocaliser. Est-ce qu'on va déplacer un objet aussi monumental qu'un mur peint dans un espace où il sera protégé ? Ça pose vraiment de nombreuses questions qui sont des questions qu'on a travaillées dans le colloque précédent. Donc ici, on pourrait peut-être parler davantage de ce qui va finalement nourrir le colloque qui arrive. C'est que dès le moment où vous patrimonialisez, vous pouvez aussi transposer la pratique dans des objets que vous pouvez protéger. Et donc, en fait, depuis l'origine, vous savez, depuis les années 70 aux États-Unis, à côté de la pratique pure et dure d'intervenir directement sur un mur dans la rue et que ça ne peut rester que là, il n'y a pas moyen de le transposer, il y a eu des associations qui ont vu là une opportunité de donner à cette jeunesse qui demandait une reconnaissance, de pouvoir travailler au-delà des murs. On leur fournissait des outils, des châssis, des toiles, et ils pouvaient vraiment faire des graffitis sur toile. Dès le départ, hein, c'est documenté, il y a plusieurs associations qui ont fait ce travail et qui ont été même plus loin en disant que dans le fond, maintenant que les toiles avec des graffitis existent, on pourrait les vendre. Et cet argent reviendrait à cette jeunesse qui trouverait aussi une forme de reconnaissance commerciale, pas seulement une forme de reconnaissance symbolique. Donc dès le début, en fait, on a pu dériver, je dirais, du mur à la toile. C'est pas quelque chose qui doit faire hurler aujourd'hui. En fait, dès l'origine, l'idée était là. Bon, après, c'est resté discret, confidentiel, mais je vous le disais, dans les années 80, il y a eu des galeries pionnières, et puis dans les années 2000 et puis 2010, ça a complètement explosé. Donc maintenant, il y a beaucoup d'objets réalisés par des street artistes, dans l'esprit du street art, qui considèrent que le street art, c'est pas forcément un mur dans la ville, c'est un esprit, c'est un courant. Et ce courant peut s'incarner non seulement sur des espaces privilégiés et originels qui sont les murs dans la ville, mais également sur d'autres supports en renouant avec une tradition plus classique, qui est la tradition de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la gravure, de la sérigraphie, etc., de l'affiche. Et donc, il y a plein d'objets, en fait, qui arrivent comme ça à disposition, d'une part, de l'institution muséale, et c'est ça qu'on a mis en avant dans le dernier colloque, mais de ce fait, également, sur le marché de l'art. Parce que si un objet peut rentrer dans une collection et être protégé dans une vitrine, il peut rentrer également dans un salon privé et être à l'abri des intempéries et de tout ce qui pourrait lui arriver en étant dans une collection privée. C'est comme ça que finalement, ces objets se retrouvent à la fois dans les espaces d'exposition et à la fois dans les espaces de vente. Et il faut savoir que le marché est très fort. Hein. Donc certains disent, bon, le capitalisme a gagné, il a même digéré le street art. Je pense que c'est vrai. Hein. Le capitalisme, c'est un système extrêmement puissant qui digère même la critique qu'on peut lui adresser et qui est arrivé à faire de l'objet urbain même un objet valorisé sur un marché. Bon, c'est comme ça. Et donc, disais-je, même si les artistes n'avaient pas prévu de faire des objets pour nourrir le marché, des pièces d'atelier, hein, on pourrait dire, et pas des pièces de rue, eh bien, le marché était tellement fort que même des objets comme par exemple leur cahier d'esquisse, parce que on pense que tout ça est improvisé, vous avez raison, il faut se dépêcher la nuit quand on fait une pièce, mais en réalité on se prépare, on fait des esquisses, des brouillons, jusqu'à ce qu'on soit content, même d'une signature, d'une simple signature, et sans parler d'une composition plus ambitieuse. Donc il y a des cahiers de brouillon, on pourrait dire, qu'on appelle les black books. Ils ont cette aura de mystère, parce que si la police tombe dessus, bah, c'est la preuve que vous êtes l'auteur de ci ou de ça, et donc vous avez de graves ennuis avec la justice. Donc c'est un espèce de livre secret que les graffeurs gardent jalousement. Eh bien, si vous fréquentez des expositions de street art, vous allez en voir. Certains arrivent, d'une manière ou d'une autre, dans les collections des musées, et sont montrés sous vitrine. Mais même les marqueurs qu'on peut utiliser, même les bombes aérosols, même les masques qu'on met pour ne pas respirer les effluves d'une bombe de peinture, tout ça, moi, je l'ai vu exposé dans les musées. En fait, le désir de documenter est tellement fort qu'il va au-delà des œuvres. Alors, à ce moment-là, on glisse d'un musée de type beaux-arts vers un musée de type anthropologie, c'est-à-dire un musée qui documente le contexte d'exécution de l'œuvre, un peu comme on a pour les arts primitifs ou les arts premiers, c'est-à-dire on nous montre une statue, sachant que pour nous c'est comme une œuvre d'art parce qu'elle est magnifique, elle a des proportions qui nous séduisent, mais en réalité c'est un objet utile dans un rituel. Et alors dans un musée d'ethnographie ou d'anthropologie, on va documenter le rituel avec des photos, des textes qui expliquent que, et l'objet finalement va s'inscrire dans son contexte originel. Mais si vous montrez la même pièce dans un musée des arts premiers, un peu white cube, léché, esthétisant, vous allez voir cette pièce toute seule sur un mur blanc pour sa beauté pure, même si c'est une beauté d'emprunt parce qu'elle nous parle à nous et elle ne parle sûrement pas aux producteurs et aux consommateurs de base de la même façon. Mais voilà, deux approches. Et le street art, c'est pareil. Vous pouvez l'esthétiser en le montrant dans un musée beaux-arts et vous pouvez l'anthropologiser en le montrant dans un musée de société, plutôt. Les deux existent, ils sont concomitants. On s'en sort en allant de l'un à l'autre pour avoir un tableau complet, je dirais.
Oui, donc quelque part, présenter à la fois une œuvre de street art qui serait réalisée sur canevas, ou à côté présenter les bombes aérosols qui étaient utilisées, le masque, ceci, cela, ben, c'est un peu comparable à une démarche de... on présente une œuvre de Michel-Ange, on présente les pinceaux qu'il employait et la manière dont son atelier fonctionnait.
Oui, alors dans l'histoire de l'art, comment dire, classique, il y a aussi un intérêt pour l'écosystème des créateurs, même si c'est assez récent dans la longue histoire de l'art. On s'intéresse justement à l'économie de l'atelier. Est-ce que l'artiste avait des artisans qui travaillaient pour lui? Est-ce que c'est lui qui signait tous ses tableaux? Enfin, il les signait, mais qui les faisait, etc. Il y a beaucoup de choses autour des grands ateliers, même de la Renaissance italienne, et puis toutes les autres périodes de l'histoire de l'art peuvent être abordées de ce point de vue-là. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, de là à exposer les outils, la palette du peintre et les pinceaux, moi j'ai vu ça dans un musée. C'est en Angleterre, un musée qui montre la collection, enfin une collection relative à Turner, qui est un grand peintre britannique. Eh bien, il y a sa palette qui est exposée sous vitrine. C'est très étrange. Et j'ai vu ça encore à une autre occasion, à une biennale d'art contemporain, où on faisait l'éloge d'un peintre coréen, je pense, moderne, et il y avait parmi ces tableaux, il y avait un pot avec les différents pinceaux qu'il avait utilisés. Mais ça me semble être plutôt exceptionnel. Par contre, on peut étudier l'écosystème des grands ateliers, disais-je, de peintres ou d'artistes importants au fil de l'histoire. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais ici, pour le street art, comme on doit faire feu de tout bois, on va vraiment chercher jusqu'à des choses inattendues. J'ai vu dans une exposition l'accrochage de la copie d'un rapport de police qui décrivait très précisément, d'ailleurs, un graffiti illégal qui, entre-temps, avait été effacé, mais photographié. Et donc, on avait la photo du graffiti, on avait le rapport de police qui servait de cartel. Vous savez, dans un musée, il y a des cartels explicatifs. Et là, le cartel, finalement, c'était le rapport de police parce qu'il était bien fait. On décrivait très bien la pièce, etc. Et ça fait procès verbal. Et après, si on peut rattraper le gars, ben, il sera condamné sur base de ces pièces du dossier. Mais là, c'était exposé dans le musée. Donc, on prend tout, vraiment. Tout est possible. Alors, si on recadre ça dans l'histoire de l'art au grand air en général, ce que moi j'aime bien faire pour relativiser un peu parfois les débats trop vifs sur ces questions de légalité, d'illégalité, de vandalisme ou d'art, il faut savoir qu'il y a d'autres pratiques contemporaines qui amènent au même questionnement. Par exemple, le land art, qui est plus à la campagne, comme son nom l'indique, qu'en ville, mais c'est un peu le même principe parce que c'est des artistes qui voulaient sortir du marché, qui voulaient proposer des sculptures dans la nature avec des objets naturels, des cailloux, des branches d'arbres, etc. Puis on prenait une petite photo et après la nature reprenait ses droits et la pièce finissait par disparaître. Et certains artistes détruisaient d'ailleurs eux-mêmes leur pièce après l'avoir photographiée. Donc on peut pas monnayer l'objet. L'objet n'existe pas. Et le seul qui l'a vu, parfois, dans des territoires très lointains, c'est l'artiste qui les a produits. Par contre, il ramène une photo. Par contre, il a un cahier également dans lequel il a noté peut-être son projet, puis il a décrit ses sensations lorsqu'il a réalisé la pièce, le temps qu'il a fallu pour arriver jusque-là, le temps qu'il faisait, ce qu'il a mangé. Eh bien, toutes ces pièces-là, même, je dirais, les gants qu'il a utilisés ou les chaussures de marche, tout ça peut se retrouver dans un musée, voire dans une collection. Donc, il y a vraiment cette gourmandise qui est très forte. Donc, les cas de land art, par exemple, on pourrait parler de la performance aussi. Hein, qu'est-ce qui reste de la performance? Le street art, c'est aussi une forme de performance. Vous le disiez, il faut intervenir rapidement, la nuit. Il y a une grande gestuelle du corps. Donc, on pourrait assimiler certaines pratiques à de la performance. Qu'est-ce qu'on en garde, sinon bon, un souvenir si on était présent, et sinon une photographie, une vidéo, une trace, quoi. Donc, toutes ces traces du land art ou de la performance, eh bien, sont gardées par l'institution muséale qui veut documenter ou par le marché qui veut nourrir une demande, eh ben, ça, c'est transposable dans le street art, je dirais. Ça se ressemble assez fort comme situation, quoi.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Eric Vanesh de m'avoir accordé cette interview. Alors une fois n'est pas coutume, l'interview donc se ferait en deux parties. La suite, vous ne l'aurez pas jeudi prochain, puisque le colloque démarre mercredi, mais vous pourrez la suivre mardi, dans le cadre de l'histoire de savoir du mardi, rediffusé le mercredi matin. Voilà. Donc pour la seconde partie de cette rencontre avec Eric Vanesh, bien, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18h15 ou mercredi matin à 9h. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What